Ce matin, on aborde un sujet très différent. Vous allez voir, ceux qui sont habitués de venir à l'Espoir, vous allez voir que ça va être une prédication un petit peu différente. On aborde un sujet qui touche tous les chrétiens depuis toujours, qui touche même plus large que ça, qui touche toute l'humanité, je vous dirais. C'est la question des images, des symboles religieux. On en a même un ici, on a une croix juste là. Les symboles et les images font partie, je pense, probablement de toutes les religions sur la Terre. Toutes les religions, j'imagine, pour autant que je sache, ont des images ou des symboles qui les représentent. Et une des raisons pour ça, c'est que l'être humain pense avec des images. On communique avec des images. C'est dans notre nature. Dieu nous a créés comme ça. Même on pense en images. Si je vous dis, par exemple, le Canada, peut-être que vous pensez au drapeau canadien. Si je vous dis le Québec, ben peut-être que vous pensez à la fleur de lys. Si je vous dis Nike, ben vous avez peut-être un logo qui vous vient à l'esprit, Adidas, Tesla. Vous voyez, des images qui viennent, les logos, les brands sont là, ça vient très, très vite. Si je vous dis le mot amour, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un cœur. C'est quand même drôle parce que c'est une pompe à sang, cette affaire-là. Moi, il me semble que l'amour est peut-être plus là. Mais toute notre vie dépend de ça, fait que je ne sais pas. Hein? C'est une image. Tout de suite, on pense à une image. Si je vous dis que je suis sur le front, on est sur le front, on est à la guerre, on est dans une tranchée, on sent qu'on est vaincu, on veut se rendre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un drapeau blanc? Un drapeau blanc? C'est un symbole universel, tout le monde connaît ça. C'est une image, voyez-vous? Nous pensons en image, c'est très fort pour nous. C'est comme ça que nos cerveaux fonctionnent. Et donc, les images ont toujours été présentes dans le christianisme. Quand on pense au christianisme, évidemment, on pense à une croix. Mais vous pouvez penser à une colombe, on va en couvrir plusieurs ce matin. Même l'Église de l'Espoir, regardez le logo de l'Église de l'Espoir. Bien, notre logo, il porte une image aussi. Évidemment, c'est quoi qu'on voit là? On a une boîte de dialogue comme dans les bandes dessinées. Puis qu'est-ce qui est au centre de notre dialogue? C'est Jésus-Christ. Nous désirons être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Donc nous, on veut toujours parler de Christ. On veut que Jésus soit au centre de la conversation. C'est une image, ça reste. Ça nous saisit, ça nous marque, ça nous aide à réfléchir. Mais ce matin, on va se poser la question, quelle place doit occuper dans la vie d'un croyant, pour les chrétiens, les images? Quelle importance on veut accorder aux images? Par exemple, la croix. Est-ce qu'un chrétien devrait porter une croix dans son cou ou non? Alors, vous allez voir un petit peu ce matin, on n'est pas dans une exposition d'un passage biblique. Mais en même temps, vous allez voir que c'est très biblique ce qu'on va couvrir. Quand je parle d'exposition, ce que je veux dire, c'est qu'ici à l'Espoir, on aime se promener dans un livre tranquillement, puis avancer dans un livre biblique. Il y a des sections par section, puis vraiment apprendre à penser comme Dieu pense en couvrant le plus possible, si c'était possible, toute la Bible. Mais ce matin, on va se promener dans différents passages, et en même temps, vous allez voir que c'est très biblique, et je pense que c'est précieux aussi, parce qu'on va parler de la plus belle image qu'il y a dans toute la Bible ensemble ce matin. On va prier puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour apprendre de ta parole, pour apprendre de toi, Seigneur. On veut, Seigneur, que tu nous aides à comprendre comment on doit véhiculer l'Évangile, véhiculer ton message sur la terre. Comment on veut s'identifier comme chrétien. Quelle place ont ces images fortes qu'il y a dans la Bible? Et ces images fortes qu'on trouve aussi dans la culture, on voit bien qu'un des seuls moyens maintenant de s'afficher publiquement comme chrétien, c'est d'avoir une croix sur un bâtiment. Les gens reconnaissent ça, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toutes ces images? Et surtout, Seigneur, viens nous parler ce matin de la plus belle image de toute la Bible. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Bon matin. Donc, la lecture de ce matin se fera dans la nouvelle édition de Genève, dans Exode 20, les versets 4 à 6, et ensuite dans Colossiens 1, les versets 15 à 20. Exode. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Colossiens. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Merci, Julie. Alors, comme on le disait, les chrétiens, à travers l'histoire, ont toujours utilisé des images. Et ce matin, on va chercher à répondre à une question. Voici la question. Quelle place un chrétien doit-il accorder aux images, aux symboles religieux? Et je me mouille, je m'avance déjà avec la réponse. Jésus-Christ est l'image et la représentation parfaite de Dieu. Et il nous a donné deux symboles, le baptême et le repas du Seigneur. Tout le reste peut être utile, mais demeure accessoire. Je vous répète ça, juste ma réponse. Jésus-Christ est l'image et la représentation parfaite de Dieu. Il nous a donné deux symboles, on va voir ça ensemble ce matin, le baptême et le repas du Seigneur. Tout le reste peut être utile, mais demeure accessoire. Dieu nous a créés avec une grande sensibilité aux images. C'est ça la vérité. On pense à travers des images. Les images évoquent des choses chez nous. On fonctionne avec beaucoup, beaucoup de symbolique. Ça nous parle très fort. Ça vient nous chercher même souvent dans nos tripes. On va s'identifier à des images. Et le domaine de la foi ne fait pas exception à ça. Quelle place la Bible et les chrétiens accordent-ils aux images et aux symboles religieux? Bien, quand on pense à la Bible, ce n'est pas un livre en images. Les enfants, si vous pensez que c'est un livre en images, il y a d'autres versions de la Bible. La Bible, c'est un livre avec du texte. Et pourtant, c'est un livre qui, à travers du texte, nous présente une multitude d'images. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a plein d'images dans la Bible qui nous parlent très, très fort, qui évoquent des choses en nous, qui éveillent des émotions en nous. Pensez à la crucifixion, qui est un événement historique, mais qui est une image très forte du sacrifice. Dieu a décidé d'être extraordinairement graphique à travers le sacrifice de la croix. Regardons rapidement quelques images qu'on voit dans la Bible. Par exemple, déjà au tout début de la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je pense qu'il y avait un arbre physiquement qui était là, mais j'arrive pas à me dire que les pommes ou le fruit ou avaient des propriétés génétiques particulières. Je pense que c'est une image, un interdit que Dieu a donné. C'était très fort, c'était physique, c'était présent. Mais est-ce que vraiment ce fruit-là avait des propriétés génétiques, puis lorsqu'ils l'ont mangé, tout s'est transformé en eux? Non, c'est probablement une image que Dieu a mis là. C'était physique, c'était présent, c'était réel. Je crois que c'est absolument historique. Et pourtant, c'est une image. Tu ne toucheras pas à ça. La circoncision, pour les Juifs, les mâles juifs devaient être circoncis. C'est une image, là. Il n'y avait pas de propriété surnaturelle dans ce geste-là. C'est une image très concrète, vous allez me dire, mais c'était une image. Le tabernacle, la maison de Dieu où on allait adorer, est rempli d'images. C'est une image en soi. Est-ce que vraiment le Dieu de l'univers était contenu dans cette tente-là? Pas du tout. C'était un lieu de rencontre qui est infiniment symbolique et réel en même temps. Dans le sens que, je veux dire, les Juifs pouvaient continuer à rencontrer Dieu n'importe où. On peut rencontrer Dieu partout sur la terre. Quand David est dans les champs et est en train de chanter des louanges à Dieu, vous ne pensez pas que Dieu était là, même s'il n'est pas dans le tabernacle? Mais en même temps, ce sont des images très, très fortes. Dieu communique à travers des images. Le sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament. Dieu est très clair dans Hébreux. Je vous lis rapidement dans Hébreux 10, versets 3 à 6. On lit ceci. « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, en parlant de l'Ancien Testament, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. » Attendez un peu. Dieu prescrit de sacrifier des animaux et Dieu nous dit dans sa parole que c'est impossible que le sacrifice des animaux ôte le péché. Mais oui, c'est une image qui annonçait l'ultime sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. Et voyez-vous, donc, toute cette pratique-là dans l'Ancien Testament, c'est une image, c'est symbolique et ça pointe dans une direction d'un événement qui était à venir. La colombe. Hein, lorsque Jésus se fait baptiser, l'Esprit vient sur lui comme une colombe. Le baptême, c'est une image, c'est un symbole. On va y revenir. Le repas du Seigneur qu'on va prendre ensemble ce matin, c'est une image, c'est un symbole. Les chrétiens utilisent des images depuis toujours. Depuis toujours. Lorsqu'on fait des fouilles archéologiques puis on trouve de vieux sites chrétiens, on trouve toutes sortes d'images dans ces vieux sites-là. On va en couvrir quelques-uns rapidement. L'encre, peut-être que vous avez déjà vu ça, mais l'encre est un symbole chrétien qui représente la fermeté de la foi, d'être attaché à Christ, de ne pas s'égarer. Et on trouve ça sur les vestiges de pierres tombales, des lieux de sépulcres chrétiens anciens. Le chrisme, c'est où le chiro, ça dépend comment on l'appelle, mais le chrisme, dans le fond, est composé de deux lettres. Il y a deux sortes de chrisme. Celui-là, ici, a le rho, qui représente... Dans le fond, c'est les deux premières lettres pour Christ, d'accord? Ici, on a le qui, puis on a le rho qui est là. Il y en a d'autres où, tout simplement, c'est une ligne ici, et donc c'est un i pour Jésus, puis le qui pour Christou. Et donc, ça, c'est un symbole chrétien qui est très, très vieux. L'ictus, certains d'entre vous, vous avez des poissons sur vos pare-chocs de voiture. Vous savez c'est quoi, hein, l'ictus? Qu'est-ce que ça représente? Bien, dans le fond, c'est une contraction, c'est le mot pour poisson en grec, mais avec chacune des lettres, on forme Jésus, Christou, Théos pour Dieu, Ouios pour le Fils et Soter pour le salut. Et donc, c'est encore un symbole très, très fort. La croix. Les chrétiens utilisent la croix. Dans notre culture à nous, au Québec, c'est peut-être le dernier symbole qui serait reconnu à peu près par tout le monde. Au Québec, c'est la croix. Même le poisson, pour avoir été en contact un peu avec des évangéliques. Ah, ouais, ok. Mais c'est peut-être le dernier symbole qui reste. Et donc, c'est très utile. Hein? Tu mets une croix sur ton bâtiment, les gens passent, ils disent, oh, il y a une église là. On va aller voir ce que c'est. Je ne sais pas combien de fois ça nous arrive par année. Donc, c'est extrêmement utile. La colombe, comme j'ai mentionné, est précieuse, puis c'est un vieux symbole chrétien. La Bible nous donne des images pour comprendre les choses de Dieu. On le voit dans les Écritures. Dieu nous parle à travers des images. Vous pourriez déjà probablement me dire, si j'asais individuellement avec vous, quelles sont les images de la Bible qui vous interpellent le plus, comme qui vous remplissent de reconnaissance, qui vous parlent de Dieu. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Quand on voit un arc-en-ciel, hein, ça nous rappelle l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Plus jamais je ferai ça. Quelles sont les images qui vous parlent le plus? La Bible nous donne des images pour comprendre les choses de Dieu, pour saisir l'univers, parce que Dieu nous a créés pour comprendre en images. C'est très précieux. Est-ce qu'il y a des images que vous chérissez plus que d'autres? Est-ce que vous avez saisi la croix? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à la croix? C'est un symbole extraordinairement puissant. C'est un symbole salutaire pour nos âmes. Alors, Dieu nous donne de nombreuses images, de nombreux symboles. Dieu nous parle à travers ces images, constamment à travers toute la Bible. Mais est-ce que Dieu veut que nous ayons des images physiques dans notre adoration, dans notre foi? Est-ce qu'on doit associer des images à notre pratique de la foi? Et c'est là qu'on s'en retourne, on est dans Exode normalement à ce moment-ci, et puis on s'en retourne ensemble dans Exode. Et le deuxième point donc, que je veux voir avec vous ce matin, c'est Jésus-Christ est l'image et la représentation parfaite de Dieu. Retournons dans Exode ensemble un instant. C'est quand même un passage très, très fort. On l'a déjà vu, vous pouvez aller réécouter la prédication dans Exode 20. Exode 20, versets 4 à 6, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu nous dit dans ce passage-là qu'il nous est interdit de vénérer quelque image que ce soit. Ça nous est interdit. Dieu n'est pas en train de nous interdire de faire des représentations de ce qu'il y a sur la terre. Un point, c'est tout. Dieu n'est pas en train d'interdire la peinture ici, là. Peindre un arbre, peindre un coucher de soleil. Non, non. Il est en train de dire, tu ne feras pas de représentation pour te prosterner devant elle. En fait, même dans le tabernacle, il y avait des images, des choses qui sont dans les cieux. Il y avait des chérubins. Est-ce que Dieu est en train de se contredire? Pas du tout. Dieu est en train de dire, tu ne te prosterneras pas devant ces chérubins-là pour les adorer. Donc, tu ne feras aucune représentation pour les vénérer. Tu peux représenter la terre, tu peux faire des images, tu peux peindre, tu peux dessiner, tu peux évoquer des images, mais jamais dans le contexte d'une adoration, d'une vénération. Pourquoi? On l'a vu lorsqu'on a vu ce commandement-là. Parce que toute représentation qui sert à l'adoration va être une réduction, une déformation, va nous éloigner de la personne de Dieu. On ne se fait pas d'image de Dieu parce qu'il n'y a aucune image que nous pourrions créer qui représenterait vraiment Dieu, qui rendrait justice à Dieu. Au contraire, ça nous éloignerait de la personne de Dieu. Et donc, associer des images, des symboles à notre adoration va nous éloigner de Dieu, va nous amener à adorer une autre version de Dieu. Si dans tes croyances personnelles, actuellement, tu as des images comme ça qui font partie de... Tu vénères ces images-là, puis tu dis, ça m'aide à connecter avec le divin. Je ne méprise pas du tout ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette connexion-là n'est pas avec le Dieu qui a créé l'univers, parce que c'est impossible que ça ne déforme pas ta connaissance de Dieu de le vénérer à travers des images. C'est toujours plus petit. Et ça dit toujours quelque chose de faux sur Dieu, parce que Dieu est plus grand que toutes les images qu'on pourrait en faire. Donc, jamais on doit associer des images à notre vénération, à notre adoration. Pourtant, Dieu nous donne plein d'images dans la Bible pour le connaître, pour nous enseigner, mais il nous interdit d'en faire des objets de vénération, des objets d'adoration. Et leçon d'histoire, deux secondes, c'est un des endroits où le catholicisme et le protestantisme font deux voies. D'accord? Je l'ai déjà dit souvent ici, quand vous allez dans une église catholique, j'ai eu le privilège de visiter de très, très belles cathédrales en Europe. Il y a une espèce de sentiment qui vient. Si tu es juste ouvert comme ça, là, tu rentres là-dedans et tu dis « Oh! » Ça fonctionne, c'est extraordinairement puissant, on est sensible. Dieu nous a créés comme ça. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit sensible à un coucher de soleil, mais on n'est pas insensible à une architecture extraordinaire. Au contraire, on est très sensible à ça. Et voyez-vous, le protestantisme au 15e, 16e siècle s'est dissocié de cette pratique de l'Église catholique parce que, justement, on a contesté, on a dit non, ça devient des objets d'adoration. Quand vous pensez au pèlerinage catholique, bien souvent, c'est aller d'un endroit où il y a un objet sacré, une relique, l'ossement de celui-ci, un bout de la croix ici, ou à l'oratoire Saint-Joseph, le cœur du frère André. Je suis allé à l'oratoire Saint-Joseph pour visiter quand j'étais plus jeune, puis là, j'arrive là, puis je vois le cœur du frère André dans le formol. Honnêtement, personnellement, j'ai été complètement troublé. J'ai dit, et je suis désolé, je ne veux pas vous offenser, si vous croyez à ça, je dois être franc avec vous, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, mais tu ne peux pas associer ça à une adoration à Dieu. C'est quoi ça? Et donc, le protestantisme s'est dissocié. Et c'est ce qui fait que, par exemple, les évangéliques, on vient des milieux protestants, ben, c'est assez dépouillé. Hein? Je veux dire, quand vous pensez à une église, il faut comprendre qu'une église, c'est les gens, c'est l'assemblée, parce que ça n'a pas l'air d'une église dans le sens historique qu'on l'entend. Et la raison pour ça, c'est que lorsqu'on commence à intégrer des images dans le rituel lui-même de notre prière, de notre louange, de notre adoration, notre cœur veut prendre la direction de cette image-là et s'attacher à l'objet, s'attacher à l'image et s'éloigner de Dieu par le fait même. Et donc, les cultes aux saints qu'on trouve dans l'Église catholique sont profondément non bibliques. C'est une offense à Dieu. C'est une offense à Dieu. Parce que Dieu nous dit non, vous ne ferez aucune image pour vous prosterner devant ces images-là. Et vous pouvez penser à ces gens extrêmement pieux, des gens très, très dévotes, qui vont s'agenouiller devant un crucifix, qui vont pleurer, puis que là, parce qu'ils arrivent dans cette présence-là, avec ce crucifix-là, là, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Dieu est là, Jésus me regarde. Non, Jésus te regarde tout le temps, mon ami, même quand tu ne voudrais pas qu'il te regarde, il te regarde tout le temps. Il est tout le temps là. C'est une des grandes distinctions, en effet. Alors, d'une part, Dieu nous parle à travers des images dans la Bible très, très fortes. Puis d'autre part, il nous dit, « Mais vous ne ferez aucune image pour les vénérer, pour les associer à votre rituel, à votre prière, à votre adoration. » Et pourtant, on pourrait dire que Dieu nous pose toute une énigme dans la Bible. Dieu nous pose une colle en nous envoyant Jésus-Christ. Tout à l'heure, Julie a lu Colossiens 1, versets 15 à 20. Le Fils, en parlant de Jésus, le Fils est l'image du Dieu invisible. Intéressant, hein? Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu qui nous dit dans la Bible, « Ne vous faites pas d'image pour me représenter », se fait une image pour le représenter. Tantôt, j'ai parlé du catholicisme. Un mot sur l'islam. C'est là qu'on se sépare de l'islam. L'islam ne veut pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Si vous lisez le Coran, Jésus, c'est un personnage extraordinairement important. C'est un prophète au-dessus de Mahomet. C'est le prophète, Isha. Et pourtant, le Coran blasphème en ne reconnaissant pas que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et donc, ce Dieu qui s'époumonne à travers toute la Bible à dire « Ne faites pas de représentation physique de moi », nous envoie l'ultime représentation physique de lui. Intéressant, hein? L'image par excellence pour représenter la personne de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, 7 à 10, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » On a vu le Père. Mais pourtant, Dieu est esprit, de quoi tu parles? Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Hey, » Pensez à ça deux secondes. Ah, j'aurais tellement aimé ça être là à ce moment-là. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voyez-vous, les Saintes Écritures nous enseignent que ce Dieu invisible qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas définir jamais parfaitement parce qu'il dépasse tout notre entendement, ne peut pas être contenu dans une image. Si dans ton expérience de la foi, il y a des images qui sont essentielles et tu vas là et puis tu adores Dieu à travers des images, inévitablement, tu es toujours en train de déformer la vérité sur Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être contenu dans une image. Mais en même temps, Dieu a fait le miracle impossible. Il s'est incarné dans un homme. Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et donc, dans un sens, pour nous, on n'est pas appelé à adorer avec des images, mais on est appelé à adorer la seule parfaite image de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous adorons Dieu le Fils. Nous voulons connaître Jésus-Christ. On veut le suivre, on veut le connaître, parce que plus je découvre qui est Jésus, plus je comprends qui est Dieu. Plus je regarde, j'écoute, j'étudie la personne de Christ, plus je réalise qui est Dieu. Et donc, je viens et j'adore Dieu le Père, j'adore Dieu le Fils, j'adore Dieu le Saint-Esprit. Mais donc, j'adore l'image parfaite de Dieu. Et je voudrais, sous aucune condition, qu'une autre image vienne prendre la place de Christ dans mon cœur. C'est pour ça qu'on cherche à être une église qui est toujours émerveillée par l'évangile de Jésus-Christ, l'image, la représentation parfaite de Dieu. Est-ce que tu connais Jésus-Christ personnellement? Est-ce que tu le connais intimement? Est-ce que tu as saisi qui est Christ dans la révélation de la personne de Dieu? Ou est-ce que tu dis encore, j'aimerais ça connaître Dieu? Il est accessible, il est là dans la personne de Jésus. Va lire les Écritures, découvre sa personne. Et tu vas découvrir le Père. Philippe, tu ne connais pas le Père? Ça veut dire que tu ne me connais pas. Il y a une dimension de moi que tu n'as pas saisie. Si tu n'as pas saisi, qu'en me connaissant, tu connais le Père. Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. Amen. Et je veux le connaître intimement. Je veux le découvrir, je veux marcher à sa suite. Lorsque je vis des troubles dans ma foi, lorsque je me remets en question, lorsque des épreuves dans ma vie qui font que Dieu devient intangible, Dieu dans mon esprit devient distant, je cours vers Jésus-Christ. Je m'en vais dans les Écritures puis je dis, « Seigneur, fais-moi connaître le Père. Je ne comprends plus rien. Je saisis que tu es mort à la croix pour moi. Je saisis ta souffrance. Je saisis ton humanité. Je comprends bien que tu es en communion avec le Père toujours. Je comprends bien que tu trouves la paix en Dieu à travers les épreuves. Je comprends même que tu y remets ta vie. J'ai besoin de découvrir le Père à travers toi. Je cours vers Christ chaque fois. » C'est en Jésus-Christ, dans son sacrifice à la croix, que j'arrive à réconcilier la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu, la justice de Dieu devant tout le mal qui se fait dans le monde et la grâce qu'il y a en Dieu. Dieu qui veut nous aimer et Dieu qui doit condamner le mal, qui doit juger le mal. Tout l'univers et tous les énigmes de l'univers se résolvent en Jésus-Christ, dans cette image parfaite de Dieu. Ô Jésus, précieux Jésus. Nous ne vénérons pas d'image parce que la personne même de Jésus-Christ est la parfaite image de Dieu. Il est la seule image de la foi que nous voulons chérir. Est-ce que vous aviez déjà saisi cette vérité-là? Que ce commandement qui nous interdit de faire des images, Dieu l'a réalisé en Jésus-Christ. Il ne pouvait pas y avoir d'autres images tant que Christ ne venait pas, parce qu'il n'y a pas d'autres images qui représentent parfaitement Dieu que son Fils. Aviez-vous déjà saisi ça? Jésus doit être précieux à nos cœurs. On veut le connaître, on veut le suivre, on veut l'imiter. Et lorsqu'on a des combats, des luttes, des doutes, des frustrations, des inquiétudes, courons à Christ. Courons à Christ. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père. Parce qu'en lui, Dieu a réconcilié toutes choses. C'est ce qu'on vient de lire. En lui, Dieu a réconcilié toutes choses. Est-ce que tu as saisi que Jésus est la personne par excellence pour connaître Dieu? Tu es ici ce matin, peut-être que tu cherches Dieu, tu dis, c'est bon, je suis à l'église, je sais qu'il y a quelque chose, je cherche, je ne sais pas, je me cherche, j'essaie de saisir la personne de Dieu. Approche-toi de Christ. Va lire les évangiles, c'est la révélation parfaite de Dieu. Tu vas être troublé dans ton âme, tu vas dire, ah, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il y a plein de choses qui ne vont pas bien dans ma vie, dans le monde, mais je vois ce personnage-là magnifique qui est là, qui est aimant, qui est compatissant, qui est droit, qui condamne l'hypocrisie religieuse, qui veut vraiment la vérité, qui est charitable, qui accueille les gens brisés par leur propre péché. Dès qu'ils s'humilient un peu, ils les accueillent. Puis là, tu vas découvrir la version de Dieu par excellence à travers Jésus-Christ. Si tu viens à l'espoir, si tu fais partie de cette Église, c'est pour être constamment émerveillé par la personne de Jésus-Christ. C'est pour cette raison-là que tu dois venir ici. C'est pour être émerveillé constamment par la personne de Jésus-Christ, parce que pour nous, tout tourne autour de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on fait des images et des symboles chrétiens? Dernier point, je termine avec ceci. Bien, Jésus nous a donné deux symboles quand même. Deux symboles. On va en pratiquer un ce matin. Et je vous dirais, tout le reste doit demeurer accessoire. Tout le reste est accessoire. Ça ne doit pas devenir un objet de vénération. Ça peut être utile. Ça doit être absolument accessoire. Les deux symboles qu'il nous a donnés, le baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu saisis que Jésus est la révélation parfaite de Dieu, le premier pas d'obéissance à faire, c'est de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier acte d'obéissance. Je décide de m'identifier. Dans le Moyen-Orient, il y a des chrétiens orthodoxes qui, pour qu'on sache toujours qu'ils sont chrétiens, se font tatouer une croix ici. Moi, je n'ai rien contre ça. Je trouve ça sympathique. Puis c'est intéressant, ils osent s'afficher dans un contexte qui est difficile. Mais la manière par excellence pour m'identifier comme chrétien, c'est de me faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est un symbole que Dieu nous a donné. Jésus dit, faites-vous baptiser. Lorsque vous êtes baptisés, vous vous associez à ma mort et à ma résurrection. C'est pour ça qu'on fait le baptême par immersion ici. On baptise des gens qui sont en âge de prendre la décision de s'identifier personnellement à Jésus-Christ. Premier symbole, deuxième symbole, le repas du Seigneur. Ce sont des images, hein? C'est des symboles, c'est des images. Ça parle très fort. Tout à l'heure, on va prendre le repas du Seigneur puis on va adorer. Mais on ne va pas adorer le repas du Seigneur. On va adorer Jésus-Christ, l'image parfaite de Dieu. Dans Luc 22, versets 19 et 20, on lit « Ensuite, il prit, en parlant de Jésus, du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps. » Voyez-vous, il dit, c'est une représentation, ça représente mon corps. Là. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, Jésus lui-même nous donne des images ici, qui, celles-là, sont associées au service. On ne veut pas adorer ces objets-là. Et donc, pour nous, le pain et le vin sont des symboles. On ne pense pas que le pain se transforme dans le corps du Christ, littéralement, ce que l'Église catholique enseigne. Non, ce sont des images. Et à travers cette pratique-là, nous communions avec Christ qui a offert son corps sur la croix, qui a versé son sang sur la croix pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les autres images chrétiennes? Il y en a plein. Mais moi, je vous dis, elles peuvent être utiles, mais elles doivent être accessoires. Et c'est une des raisons pour laquelle on a une croix dans l'Église ici, mais elle est là. Elle n'est pas ici. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de croix cette semaine en avant, puis je n'arrive pas à adorer. Vous comprenez? Et je ne veux pas être méchant du tout, là. Mais là, j'ai dit, ah, c'est tellement facile. C'est tellement facile de commencer à vénérer des objets. On est fait comme ça. On aime les images. Et donc, pour nous, c'est précieux. J'aime la croix. Moi, des gens qui portent une croix de manière symbolique, j'ai aucun problème avec ça. Hein? C'est une belle manière de s'identifier. Les symboles chrétiens sont très utiles aux chrétiens depuis le début du christianisme. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça ne doit jamais être des objets de vénération. C'est accessoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est accessoire parce que l'objet de notre adoration, l'image par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est à toi de décider si tu portes une croix dans ton cou. Mais une chose qui est certaine, c'est que la croix que tu portes dans ton cou, n'est pas suffisante pour que tu manifestes Jésus-Christ. Tu es appelé, toi, à devenir une représentation vivante de la seule image parfaite de Dieu, Jésus-Christ. Tu es appelé, toi, à devenir une image de Christ pour les autres. Pas qu'on va adorer, mais une représentation concrète de la personne de Christ. On lit dans 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16, « Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Voyez-vous? Donc, on est appelé, nous, à être une représentation, un parfum de Christ au nom de Dieu parmi les chrétiens et parmi les non-chrétiens. Une odeur de mort donnant la mort aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et donc, dans nos services, dans notre louange, dans notre adoration, dans nos dévotions, on peut intégrer, pour s'identifier, des images chrétiennes. Il y en a plein. Elles sont précieuses. Vous pouvez les chérir dans une certaine mesure. Vous identifier avec ça. Moi, plus on m'interdit de m'afficher comme chrétien, c'est mon petit côté rebelle, plus j'ai le goût de le faire. Parce que je suis fier de Jésus. Je n'ai pas de plus grande fierté sur la terre que Jésus-Christ. Aucune n'est comparable à la fierté que j'ai de connaître Jésus-Christ. Parce qu'il est la parfaite représentation de Dieu. Est-ce que tu le connais personnellement? Est-ce que tu le chéris au-delà de tout? On va aller ensemble dans la prière. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Seigneur Jésus, comment connaîtrions-nous le Père sans toi? Seigneur, en tout respect pour toute la révélation de l'Ancien Testament, elle n'est jamais aussi riche que lorsqu'elle pointe vers toi. Parce que tu es, Seigneur, la révélation parfaite du Père. Tu es celui qui nous fait connaître Dieu. Seigneur Jésus, je ne veux avoir d'image devant mes yeux, dans mon esprit, que toi pour me parler de Dieu. C'est à travers toi que j'ai connu ce Dieu gracieux et bon. C'est à travers toi que j'ai connu ce Dieu qui vient et qui couvre la distance. C'est à travers toi que j'ai connu ce Dieu qui comprend notre faiblesse, qui comprend toutes les limites que nous imposent nos péchés, nos vies brisées. C'est à travers toi que j'ai compris ce qu'était l'hypocrisie religieuse et la vraie religion qui plaît à ton Père. C'est à travers toi que j'ai découvert que Dieu est saint, juste, droit, intransigeant envers le mal et gracieux envers le pécheur. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Nous désirons, par la puissance de l'Esprit, être une Église qui est constamment émerveillée par toi, Jésus-Christ. Parce que c'est en toi que nous connaissons Dieu. C'est en s'approchant de toi que nous connaissons Dieu. Seigneur, viens nous rencontrer ce matin. Viens prendre toute la place dans notre esprit, dans nos pensées. Et Seigneur, s'il y a quelques personnes ici, aujourd'hui, qui n'avaient pas saisi que c'est en toi qu'on connaît le Père, viens te faire connaître à eux ce matin, Seigneur. Viens te révéler à eux, Seigneur. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.